Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans La Lorgnette. Salut Clémentine.
Salut Thomas.
On vous propose cette semaine une lorgnette un peu spéciale, découpée en deux parties. C'est pour ça que les animateurs et les animatrices de La Lorgnette sont réunis, puisque chacun de nous a réalisé un petit bout de cette lorgnette consacrée notamment à la Marche des Fiertés qui aura lieu le samedi 24 mai ici à Blois. Et puis aussi donc aux actions de lutte contre les discriminations à destination des personnes LGBT. On va tout de suite commencer avec le premier segment qui a été réalisé par toi, Clémentine.
Oui, pour cette lorgnette, on a accueilli en studio Eden et Mélodie du planning familial de Loir-et-Cher pour parler de la Pride à venir et puis aussi de toutes les luttes au quotidien, des discriminations même au niveau local qui ont encore lieu en 2025 à l'encontre des personnes LGBT. Et puis voilà, plein de choses qu'on vous laisse découvrir tout de suite.
On écoute ça et on fera une pause musicale juste après.
Et nous voilà donc en studio ce soir dans la lorgnette avec l'équipe du planning familial de Blois. Aujourd'hui, on reçoit Eden et Mélodie. Bonjour.
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 La Marche des Fiertés, la troisième édition, c'est donc samedi prochain le 24 mai à partir de 15h. Elle partira des jardins de l'évêché. Alors pour commencer cette émission, est-ce qu'on peut rappeler dans quel contexte se sont créés les Prides? Et puis pour cette troisième édition, est-ce qu'il y aura des nouveautés?
Alors déjà, d'un point de vue historique, la Pride, ou Marche des Fiertés comme on l'appelle en France, c'est une émeute. Donc c'est un truc sur lequel on s'axe beaucoup avec le planning familial, parce que nous on est une association féministe, donc on est très engagés d'un point de vue politique. Et rappeler que Stonewall, c'est pas juste des paillettes, et enfin que la Pride d'une façon générale, c'est pas juste des paillettes et des festivités, mais bien des revendications. Stonewall, c'est un bon exemple de cet aspect revendicatif et profondément politisé. Stonewall, c'est quoi? C'est un bar de New York dans lequel il y a eu des raids policiers. C'est un bar queer. Et suite à ce raid, en fait, il y a eu une série de manifestations spontanées et assez violentes pour protester en fait contre le raid qui avait lieu dans le bar de Stonewall. Et ça a été le point de départ en fait de la manifestation pour les droits des personnes LGBTI. Donc c'est un peu la naissance des Prides pour rappeler que oui, nos existences, elles méritent d'être célébrées, mais elles méritent aussi surtout d'être visibilisées, d'obtenir les mêmes droits en fait que les personnes qui ne sont pas homosexuels ou pensées, enfin pour les, que les personnes hétéros, que les personnes cisgenres, que les personnes dyadiques, c'est-à-dire qui ne sont pas intersexes, etc., etc. Et donc, nous, on y attache une grande importance parce que, au fur et à mesure des années qui ont suivi Stonewall, les Prides ont été peu à peu dépolitisées et transformées simplement en festivités. Et bien sûr, faire la fête, c'est important, avoir des moments de célébration et de rassemblement, c'est important. Mais c'est pas la seule chose, surtout quand on voit comment nos droits sont attaqués à travers le monde, que ce soit en France ou ailleurs.
Oui, c'est un espace festif, inclusif, mais aussi militant. Le sigle LGBT, il s'est étoffé au fil des années afin de rendre compte des différentes identités sexuelles. Est-ce que vous pouvez rappeler à quoi correspondent toutes les lettres de ce sigle?
Alors, c'est les identités non seulement sexuelles, mais ça correspond aussi à des identités de genre. C'est-à-dire que le L, c'est pour lesbien, LG, gay, bi, trans. Q, c'est pour le queer. Alors, le queer, c'est un mot qui a été réapproprié par la communauté. C'est-à-dire que queer, en anglais, c'était une insulte pour dire « c'est des gens bizarres ». Et donc, la communauté a dit « bah oui, on est queer ». Ça se retrouve beaucoup dans des dynamiques de discrimination où les personnes vont réutiliser les mots. Et c'est d'autant plus vrai dans la communauté queer où il y a certains mots qu'on va réutiliser, par exemple le « gwyn », qui ne va pas du tout avoir la même signification s'il est dit par une personne hétéro à une personne lesbienne, ou si c'est des lesbiennes qui vont le dire entre elles, parce que c'est se réapproprier des mots pour qu'ils blessent moins. Alors on était I, c'est pour intersexe, et le A, ça va être pour tout ce qui va être autour de la sexualité, l'aromantisme.
À genre aussi.
À genre aussi. Et le plus, c'est pour toutes les personnes qui font partie de l'éventail, on va dire, parce que bah, y a autant de réalités que de personnes. C'est-à-dire que bah, si on interviewait, je ne sais pas moi, 100 lesbiennes, et ben, chaque personne vivrait sa réalité différemment, tout comme si on interrogeait des personnes cis hétéros, bah, elles ont toutes des réalités qui sont très différentes. Alors des fois, on peut entendre le « ah oui, il y a toujours de nouvelles lettres, c'est embêtant, etc. » Mais c'est aussi pour dire qu'il y a plein de réalités qui existent et qui sont invisibilisées, et que c'est important d'en parler parce que ces personnes existent. Elles ont le droit d'exister. Et donc, c'est important de leur dire qu'elles ont le droit d'exister. Parce que, bah, notamment, après la tragédie qui s'est passée récemment avec la jeune fille qui s'est suicidée parce qu'elle a été rejetée par sa famille juste du fait de son orientation sexuelle, malheureusement, c'est une réalité qui est très, voire trop commune dans la communauté queer. Et donc, l'idée, c'est de dire... ben, non, tu es légitime d'être qui tu es. Et donc, ça sert à ça, bah notamment les marches des fiertés ou tous les événements qui peuvent être organisés pendant le mois des fiertés.
Au quotidien, au planning familial de Blois, de quelles discriminations vous entendez encore parler et contre lesquelles il faut encore lutter ?
Vous avez une heure. En fait, je dirais que les discriminations, elles vont être plurielles. On va avoir des discriminations qui sont visibles, c'est-à-dire quand on va dans des écoles et que les jeunes s'insultent entre eux de PD, en fait, il y a plein de gens qui vont dire « Ah, c'est une blague !» Ben non, en fait, c'est violent. Et ça veut dire qu'être PD, c'est pas être normal. Ça veut dire que c'est un problème. Donc il va y avoir toutes les insultes, il va y avoir les violences physiques aussi. Il y a aussi des violences... Alors en fait, il y a des violences à tous les niveaux, parce que même au niveau sociétal, il y a des violences économiques. C'est-à-dire que bah, les personnes queer, notamment les personnes trans, l'accès à un logement, l'accès à un emploi va être très complexe parce qu'elles vont être discriminées, que ce soit dit ou que ce ne soit pas dit.
L'accès à la santé aussi, parce que c'est quand même un point principal. Par exemple, dans le cadre de la transphobie médicale, il y a ce qu'on appelle le syndrome du bras cassé. Je ne sais pas si vous connaissez. Non. C'est une personne trans qui va chez le médecin parce qu'il s'est cassé le bras. Et en fait, toutes les questions vont tourner non pas autour de son bras cassé, mais autour de son changement d'identité de genre, d'une possible chirurgie ou d'une possible prise d'hormones. La responsabilité de ce bras cassé va être mise sur sa transidentité, sur sa vie, et pas sur bah, une simple chute, un accident. Quoi. Oui. Voilà. Mm. Voilà. On a plein de discriminations médicales qui existent comme ça, comme pour les personnes grosses, comme pour les personnes racisées, etc., etc. De non-prise au sérieux, en fait, des besoins de la personne. Et sans dire explicitement que ce tri est fait sur la base de leur identité de genre ou de leur orientation sexuelle, ou etc., etc., mais qui va tout de même être impacté par ça, par cette vision en fait, que le soignant, la soignante va avoir de la personne. Et pareil, niveau santé sexuelle, il y a aussi une extrême méconnaissance, par exemple, de la sexualité des personnes lesbiennes. Un imaginaire qui se crée autour du fait qu'il bah, ne pourrait pas y avoir d'IST ou de moindre risque chez les lesbiennes. Pourtant, si, il existe des protections spécifiques pour des rapports spécifiques. Et ces méconnaissances, en fait, elles entraînent une prise en charge qui est mal faite. Et donc, du coup, des problèmes de santé qui peuvent être aggravés ou délaissés de ce fait.
Et puis après, il va y avoir aussi toutes les discriminations quotidiennes. Donc, comme on le disait là, avec la jeune fille qui s'est suicidée, c'est-à-dire que ben, le nombre de familles qui vont rejeter leurs enfants ou même des membres de leur famille juste parce que ces personnes ont une orientation sexuelle ou vont être trans ou vont être non-binaires. Et il va y avoir aussi toutes les petites violences du quotidien, c'est-à-dire que on s'en rend pas compte, mais être une personne LGBT, ça augmente la charge mentale énormément parce que, par exemple... imaginons une conversation entre collègues où on parle de son conjoint, de sa conjointe. Ben en fait, vu qu'il y a une hétéronormativité, on s'attend à ce qu'une personne, ou quand on la voit, on se dit ah « ben c'est une femme, elle est avec un homme ». Et ben en fait, on sait que les discriminations sont là. Donc en fait, quand on va être LGBT, on va réfléchir à la manière dont on peut tourner notre phrase pour ne pas dire ces mots-là, ou alors pour tester si la personne en face
est ouverte
ou pas. Et en fait, ça, au quotidien, on ne s'en rend pas compte, mais c'est épuisant. Mmh. Donc en fait, il y a aussi Quelque chose dont on parle très peu, c'est la santé mentale. Alors, de manière globale, dans notre société, on sait qu'en ce moment, la santé mentale, c'est une catastrophe. Mais d'autant plus pour les personnes qui font partie de la communauté, et notamment chez les jeunes, où on sait que la proportion au suicide est beaucoup plus élevée chez les jeunes LGBTQIA+, que chez le reste de la société.
Dans le monde, en ce moment, on voit une forte remise en question des droits des personnes LGBT. On parlait juste avant de débuter cette émission de la Hongrie qui a interdit la marche des fiertés et qui a adopté une loi pour cela. On pourrait citer des tonnes et des tonnes d'exemples, en passant par Donald Trump qui nomme ce qu'il appelle le délire transgenre et qui signe un décret en janvier pour interdire l'extrémisme de genre dans l'armée. En Afrique également, beaucoup de régressions. Est-ce qu'au quotidien, à Blois, au planning, vous faites face aussi à ces conservatismes qui montent ?
Alors, à Blois, ce qu'on peut noter, c'est qu'il arrive que des affichages, que ce soit sous la forme d'autocollants, de stickers ou d'affiches, apparaissent de façon régulière sur des questions portées notamment par la Manif pour tous, comme la GPA, qui compare la GPA à de la vente d'êtres humains. On a également remarqué des affiches qui luttent contre les VARS, qui est pourtant un programme essentiel pour tous les enfants et adolescents, j'allais dire de France, mais en fait du monde entier, pour comprendre sa sexualité, le fonctionnement du corps, le droit au respect de son propre corps et de ses limites, et au respect des limites d'autrui, le consentement forcément, la question des IST évidemment, et de la contraception, mais aussi, et c'est important de le dire, la connaissance de la diversité en termes d'identité de genre et d'orientation sexuelle. Le fait que le gouvernement à l'heure actuelle veuille modifier ce programme, l'altérer et surtout limiter l'accès à des associations militantes d'éducation populaire comme la nôtre aux établissements scolaires en redonnant, entre guillemets, si je puis me permettre, le bébé aux enseignants qui sont déjà surchargés dans leur programme, c'est une façon, en fait, implicitement, de faire passer ce programme pourtant essentiel au second plan, voire totalement à l'arrière-plan, et en limitant en fait les moyens, les moyens humains, les moyens financiers pour mettre en place de vraies séances d'éducation à la sexualité comme prévu dans la loi Aubry de 2001.
Il y a une autre réalité aussi qui va être importante, c'est la réalité économique du monde associatif de manière générale, des plannings familiaux et des centres de planification, donc des centres IVG. On en a alors beaucoup qui sont en train de fermer faute de financement. Et en fait, les plannings familiaux, ce sont aussi des lieux ressources pour venir. Je ne sais pas, je me questionne, je peux en parler avec personne. Je vais aller au planning familial parce qu'on a un accueil inconditionnel. Donc, c'est-à-dire qu'on va accueillir les personnes, elles vont pouvoir poser leurs questions, elles vont pouvoir avoir un lieu d'échange. Et en fait, la réalité, c'est que les financements baissent. Donc en fait, ce sont des lieux qui sont menacés et c'est aussi notre réalité au niveau local parce que on peut parler des affichages, etc. Mais on a aussi une réalité économique, c'est-à-dire que la première année, la Pride a bénéficié de financements. Et là, cette année, par exemple, on s'autofinance parce que justement... les pouvoirs publics, notamment la préfecture, qui normalement est censée nous allouer des financements, ne l'a pas fait l'année dernière et ne le fait pas cette année. Et il y a aussi une réalité politique qui est importante à connaître, c'est-à-dire qu'actuellement, dans notre gouvernement, on a plusieurs personnes qui, à l'époque, avaient voté contre la dépénalisation de l'homosexualité et qui ont voté contre, à l'époque, l'interdiction des thérapies de conversion. Donc ça veut dire que politiquement parlant, ce sont des personnes qui sont discriminantes. On a créé un jeu justement avec les propos homophobes qui ont pu être tenus par les membres du gouvernement. Et pour être honnête, ça fait peur en fait. Et on sent que les choses arrivent doucement mais sûrement. Et le planning familial étant aussi une association, comme le disait Eden, féministe, mais aussi intersectionnelle, on se rend bien compte que les attaques sont de toutes parts. La réalité sur Blois et sur le département, mais sur Blois, on a plein de familles qui se font mettre à la rue, des femmes notamment avec des enfants très jeunes. Et en fait, ça fait partie, on va dire, d'un ensemble où en fait, on va venir taper, que ce soit symboliquement ou même des fois réellement, sur les personnes les plus fragiles de la société.
Tu parlais des thérapies de conversion, Mélodie. En ce moment, il y a une initiative citoyenne dont on entend parler dans les mouvements militants, mais pas trop en dehors, j'ai l'impression. Donc, je trouvais important d'en parler dans la lorgnette afin d'interdire légalement les pratiques de conversion au sein de l'Union européenne. Est-ce que vous pouvez nous en parler ?
Oui, effectivement, ça fait quelques temps maintenant que cette initiative a été démarrée, sachant que donc chaque pays de l'Union européenne a une espèce de quota. J'aime pas ce terme-là, mais quota à atteindre pour porter cette décision auprès de l'Union européenne. Je sais que nous, ça fait un moment en France qu'on l'a atteint, ce quota, mais il y a un encouragement en fait de la part de toute la communauté LGBT européenne de s'encourager d'un pays à l'autre à atteindre, à partager encore et encore les pétitions pour atteindre ce quota dans un maximum de pays afin que cette décision elle puisse être entérinée d'un point de vue légal, même si malheureusement on sait bien que le passage des lois ce n'est pas suffisant en fait pour protéger vraiment les personnes s'il n'y a pas de moyens de mise. Enfin, on l'a bien vu avec la question justement de l'IVG. L'IVG en France a été constitutionnalisée en tant que liberté. Bon, déjà, c'est extrêmement limitant, contrairement au fait d'entériner le droit. Et à côté, on a des centres de planification qui ferment, comme on le disait. S'il n'y a pas les moyens qui sont mis en place réellement, la loi, ça ne suffit pas. Voilà. Et c'est pour ça que ce militantisme du quotidien que pratique le planning familial et plein d'autres associations à nos côtés, il est essentiel en fait pour sensibiliser les personnes et pour qu'elles soient conscientes que la loi, ça ne suffit pas.
Et puis parce que la loi n'est pas respectée. Enfin, il faut aussi dire ce qui est, c'est-à-dire qu'on a des droits qui ne sont pas respectés. Alors nous, on milite pour avoir de nouveaux droits, mais aussi pour que nos droits soient respectés, pour que les plaintes soient prises et qu'elles soient prises en compte suite à la prise de la plainte. À l'heure actuelle, n'importe quelle personne LGBT pourra, QIA+, pourra vous le dire, être LGBTQIA+, dans la société actuellement, que ce soit en France ou que ce soit dans le monde, c'est un danger. Et en fait, la justice a du mal à reconnaître, les plaintes ne sont pas prises ou ne sont pas prises en compte. Donc ça aussi, c'est juste de dire, on est des êtres humains, on a des droits en tant que citoyens, citoyennes, mais qui ne sont pas respectés. Donc c'est aussi que nos droits soient respectés.
Et pour le coup, en termes de pénalisation, on va dire, ce qui est assez important symboliquement, c'est qu'on voit par exemple que les personnes trans, pour avoir un changement de mention de genre à l'état civil, elles n'ont pas juste à passer en mairie. Non, il faut qu'elles passent devant un juge, dans un tribunal. Symboliquement, c'est extrêmement violent.
C'est extrêmement fort, ouais.
Voilà. Et de même, si on parle des plaintes, c'est pas seulement qu'elles soient prises en compte, c'est qu'elles soient faites non pas dans la violence, comme ça arrive malheureusement trop souvent, la remise en question du caractère homophobe ou transphobe d'une discrimination vécue au moment de déposer une plainte, c'est la double peine en fait.
Et un grand merci à vous deux, Eden et Mélodie. Les choses bougent au-delà de Blois. On va le voir en partant du côté de Romorantin avec Thomas. Est-ce que, pour passer à la seconde partie de l'émission, vous auriez une idée ou une envie de musique à passer autour de ce sujet, si vous avez une idée? Je vous pose une colle, mais...
Pirate?
Ah ouais, carrément.
Pirate de Holokid. Je pense que ça fait bien.
Super. Eh bien, merci beaucoup. On le rappelle, la marche des fiertés, c'est le samedi 24 mai. D'où se fera le départ et à quelle heure?
Alors déjà, il y aura un village associatif de 11h à 15h au Jardin de l'Évêché. Je réponds à une question que tu nous as posée au début. Il va y avoir des petites nouveautés cette année, c'est-à-dire qu'on va accueillir de nouveaux partenaires sur le village associatif, notamment l'étendard, qu'on tient à remercier grandement parce qu'il... Et elles nous ont permis de faire une soirée de soutien pour la marche des fiertés et qui nous a permis de récolter des fonds. Donc on leur dit un grand merci. On va aussi accueillir l'association Harlequin, qui a une initiative au niveau de Saint-Aignan pour une semaine. Je crois que ça s'appelle la semaine des diversités. Donc pareil sur tout ce qui est autour des questions LGBTQIA+. Et on va accueillir aussi de nouvelles artistes. Et aussi, donc la marche débutera à 15h des Jardins de l'Évêché. Et on est très heureuse de pouvoir dire que nous aurons une DJ pour le char cette année, qui est Selena, qui est une artiste queer de Tours.
De Tours ?
Non. Alors, on n'est pas sûr qu'elle est de Tours.
Mais c'est Selena.
Elle est du département.
Elle est du département. Moi, dans la tête, j'avais Tours.
Non, mais je sais pourquoi.
Elle est du Loir-et-Cher.
Voilà. On fera une boucle cette année, contrairement à l'année dernière, du Jardin de l'Évêché. Et retour au Jardin de l'Évêché. Et on terminera par un petit happening où on pourra tranquillement partager les dernières boissons pour finir la soirée après la marche qui aurait été bien fatigante.
Très bien. Eh bien, merci beaucoup Eden et Mélodie. On pourra donc vous retrouver le 24 mai à partir de 15h pour le début de la marche. Mais bien sûr, venez avant pour voir les associations au village associatif au Jardin de l'Évêché. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci.
Qu'ils me crachent leur mépris, moi j'ai appris à m'en éprendre. Et je m'apprête à le pendre sur la place publique. J'ai la bouche pleine d'injures pour tous les hommes qui ont fière allure face aux blessures qui coulent le long des rues, là où les queers se meurent encore. Le peuple est solide mais fissile comme un diamant. Voilà pourquoi autant de clivages pendant qu'on proteste sous l'orage. J'ai pas assez de paillettes pour camoufler ma rage, alors je compte bien en faire un carnage. On est les pirates de la ville, ceux qu'on envoie dans les asiles. Dans les caves on se maquille et une fois par an on défile. Oh. De drôles d'oiseaux aux jolies plumes qui peuvent vous crever les yeux. On est les pirates de la ville, on n'a jamais le même profil. Tu me crois souvent en civil, portant dessous mes barésies. Oh. De drôles d'oiseaux aux jolies plumes qui peuvent vous crever les yeux. Ma gueule sera partout où tu n'en veux pas. Un peu comme la tienne qui s'est permise de venir voir sous mes draps. J'ai plus de droits, plus d'espace. Mais si certains des miens trépassent, ils passent jamais à la télé. Après tout, c'était que des PD. Quant à mes sœurs que vous traitez de chiennes, la meilleure chose à leur souhaiter, c'est qu'elles soient bi ou lesbiennes. Vous insultez vos ex de pute. Moi, j'espère qu'elles l'ont été. Pour avaler autant de conneries, la moindre des choses, c'est d'être payé. Oh, non, vous n'arrangez pas votre cas. Ça sexualise des gamines et ça accuse la vodka. Mais non, encore une fois, personne n'y croit. Toujours un truc à dire alors que le mec pend en 4K. Mais après tout ça, c'est la faute des queers. Avec MeToo, vos points médians, maintenant on peut plus rien dire. Ils déprécient nos pride, jugés trop incongrus. Le seul endroit où ils veulent de la couleur, c'est en garde à vue. Mais je suis pas hétérophobe, seulement je ne cautionne pas. Déjà qu'ils ont le droit de se marier dans 10 ans, ça sera quoi? Je suis pas cisphobe non plus, mais avouons que c'est bizarre de laisser les médecins choisir ce que tu seras plus tard. Y'a des descentes de flics dans leur bar de 6-7. Faut dire que leur style est tellement fat, je comprends qu'on les arrête. Et tard le soir, ils se font taper sur les parkings. Mais c'est de leur faute, la rue appartient au drag king. C'est beau de rêver. Appelez-moi chien ménestre, c'est leur déclin que j'orchestre. J'ai des mots bien affûtés et témoignages irréfutables. Pour ceux qui osent nous dire qu'il n'est pas trop tard pour être pieux. Ils savent même pas trouver un clito et c'est à nous de trouver Dieu. Ils méritent tous ces rappeurs sexistes, c'est aberrant. Ouais, leur seul hit de l'été, c'est de nous faire jouer une fois par an. J'aurais honte d'être crédité si j'étais leur beatmaker. C'est bien plus drôle d'écrire pour dire combien leur sale beatmaker. On est les pirates de la ville, ceux qu'on envoie dans les asiles. Dans les caves, on se maquille et une fois par an, on défile. Oh. De drôles d'oiseaux aux jolies plumes qui peuvent vous crever les yeux. On est les pirates de la ville, on n'a jamais le même profil. Tu me crois souvent en civil, portant dessous mes barésies. Oh. De drôles d'oiseaux aux jolies plumes qui peuvent vous crever les yeux.
Vous êtes toujours dans la lorgnette sur Studio ZEF sur le 91.1 à Blois et le 91.7 à Vendôme. Et pour continuer ces discussions autour des actions de lutte contre les discriminations LGBTophobes, Thomas a rencontré Sophie Escamez, élue en charge de la lutte contre les inégalités à Romorantin.
Nous sommes de retour en studio pour la lorgnette avec par téléphone Stéphanie Escamez. Bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes adjointe à la mairie de Romorantin, chargée des luttes contre la lutte contre les inégalités au sein de la ville et plus largement aussi au sein de l'agglomération. Depuis la semaine dernière, tout un tas d'actions ont eu lieu à Romorantin dans le cadre de la semaine de lutte contre les inégalités et la stigmatisation des personnes LGBTI+. C'est la deuxième édition de cette semaine spéciale. Qu'est-ce qui a motivé la mise en place de cette action par la municipalité de Romorantin ?
Alors, elle était, je dois dire, déjà en réflexion depuis un certain nombre d'années, parce que depuis déjà deux mandats que je fais et que j'occupe ces missions aux côtés de l'équipe exécutive. La lutte contre les inégalités et toute forme de stigmatisation est un fil rouge pour nous dans toutes nos actions. Mmh. Alors, il est vrai qu'effectivement, nous avions coutume de la décliner de manière forte dans l'écriture des projets, que ce soit le contrat de ville, les actions éducatives, les actions de cadre de vie, que ce soit dans les quartiers prioritaires de la ville comme dans tous les quartiers de la ville. On s'est toujours engagé sur ces chemins-là. Mais il est vrai que nous avons souhaité aussi mettre en exergue des actions de sensibilisation, d'information auprès du plus grand public possible. Et donc, à l'instar des semaines en faveur des droits des femmes ou contre les violences qui leur sont faites, nous avons décidé de proposer également ce type de programme d'action autour de la journée internationale.
Quels ont été les temps forts de cette semaine ? Donc on a vu des projections, j'imagine des rencontres, des débats, ce genre de choses ?
Oui, alors très souvent, notre fil est effectivement de toucher tous les âges, tous les publics, hein, évidemment, toutes les générations, tous les horizons, tous les quartiers, le plus largement possible pour sensibiliser le maximum de personnes. Mais on a quand même ce fil toujours de vouloir aller vers les plus jeunes publics. Donc, il y a eu cette fois encore des ateliers créatifs qui ont été proposés et des fresques et aussi sur surtout, nous avions réalisé un projet l'an passé qui s'appelle Voix invisible, qui avait d'ailleurs été retenu et financé pour partie par la DILCRA et qui était...
Est-ce qu'on peut rappeler ce qu'est la DILCRA, pardon, histoire que nos auditeurs, nos auditrices sachent de quoi on parle?
C'est une délégation interministérielle qui réunit l'éducation nationale, les forces de l'ordre, les élus locaux, pour pouvoir recenser les manifestations malheureusement de racisme, d'antisémitisme et de haine anti-LGBT et de fait de proposer des actions pour s'en prémunir.
Ok.
Et lutter contre ces mouvements de violence et de discrimination.
Et donc, vous parliez d'actions coordonnées avec la DICRA avant que je vous coupe.
Oui. Donc, nous avons postulé, effectivement, enfin, nous avons mis en place un projet et que nous avons présenté à la DILCRA qui a été effectivement retenu et financé pour partie l'an passé, qui s'appelle Voix invisible. Et l'idée était effectivement de pouvoir avoir un maximum de témoignages, alors à la fois des témoignages qui pouvaient expliquer toute la difficulté qu'il existe encore à vivre son orientation sexuelle de nos jours, et puis d'autres aussi qui revendiquaient le fait qu'il n'y avait dans la société de tous les jours quasiment pas de sujet pour eux, qu'ils le vivaient tout à fait naturellement et que l'universalité de leur amour, leur famille, leur foyer était bien plus présente que ce qui voulait être mis en avant par d'autres pour diviser.
Une volonté de créer un tableau assez réaliste, donc avec les côtés très négatifs, mais aussi très positifs de sexualité épanouie et qui ne subissent pas de contraintes au quotidien, et heureusement qu'il y en a, bien sûr.
Donc complètement, et c'est effectivement ce qu'il en a abouti de ce projet. Donc nous avons reçu des témoignages par écrit de personnes, bien sûr, voulant restant anonymes, donc ils ont été lus et mis en son et en image. Et l'objectif était effectivement de le diffuser largement. Donc dès l'an passé, nous avons proposé à la diffusion au collège de Notre-Dame de Romorantin, et 70 collégiens ont pu effectivement y assister. Et donc notre objectif était qu'ils puissent continuer à voyager, à toucher un maximum de personnes. Donc cette année, il sera dans différents lieux, il est déjà d'ailleurs, dans différents lieux de la ville, afin que les usagers puissent l'entendre le plus largement possible. Donc c'est le cas par exemple au CCAS, mais ça va être le cas également à Villefranche-sur-Cher, dans la bibliothèque pendant un mois. Donc tous les usagers auront l'occasion d'entendre ces témoignages. Donc c'était une action forte pour nous de la une manière forte de pouvoir informer, sensibiliser.
Très bien. On sait que même avec tout l'engagement hein, porté par les associations militantes, rien n'est possible sans l'appui des pouvoirs publics. Comment une municipalité, alors la vôtre en priorité, et même les autres échelons publics peuvent-ils lutter contre les délits et crimes en direction des personnes LGBTI ?
Alors, il y a... Moi, je suis une férue convaincue de la pédagogie et de l'information, de la prévention. J'ai le sentiment que si l'on explique, si l'on parle dès le plus jeune âge, c'est comme ça peut déconstruire les mouvements de rejet et les situations de discrimination ou de violence. Ça, c'est une première chose. Donc, forcément, on le construit dans tous nos fils d'action, que ce soit avec les écoles, avec les collèges, que ce soit dans les actions aussi de notre animation jeunesse ou sur le temps des devoirs, des aides aux devoirs, dans notre centre social. Donc, on a des actions comme ça qui sont là tout au fil de l'année. Comme je vous l'ai dit aussi, on a la possibilité d'écrire dans nos axes ces valeurs et ces enjeux et comment les défendre, que ce soit dans le contrat de ville, que ce soit lors de la conférence intercommunale de logement, le fait de faire des choix de non-discrimination. Mm-hmm. Donc on a quand même cette possibilité-là. Et puis après, effectivement, en tant qu'élu local, en tant qu'élu locaux, car je ne suis évidemment pas la seule, nous siégeons dans des instances qui nous permettent aussi de nous exprimer, de recenser ce qu'il se passe dans nos villes et ensuite de pouvoir, en partenariat avec l'État, les forces de l'ordre, l'éducation nationale, mettre en place des actions qui puissent nous en prémunir. Puis vous le savez, le maire est aussi le premier magistrat de la ville. Il est en lien quotidienne avec les forces de l'ordre. On a des groupes locaux de traitement de la délinquance et forcément, on s'attache à faire tout notre possible pour que ces actions soient les plus rares possibles, si ce n'est n'existent plus.
On a vu les derniers chiffres datent de 2023, des hausses. Alors ça peut faire un peu le yo-yo selon les années, mais les derniers chiffres de 2023 montrent une hausse justement des actes des crimes et des délits à direction des personnes LGBT. C'est aussi ni plus ni moins, mais des choses que vous constatez et sur lesquelles vous êtes vigilant à la municipalité de Romorantin.
Évidemment, alors comme pour toutes les violences, celles-ci comme celles faites aux femmes, comme les violences intrafamiliales ou aussi la résurgence des violences antisémites ou tout acte raciste, il y a deux facteurs. Il y a un qui forcément nous inquiète et sur lequel nous sommes extrêmement vigilants, qui est qu'effectivement que dans les temps de crise, on peut voir une crispation des comportements et malheureusement des reculs évidents quant à la possibilité de vivre ensemble et des rejets à nouveau, des violences, des comportements qui nous affligent et que l'on refuse et contre lesquels on veut lutter. Donc ça, je pense qu'effectivement, c'est une tendance malheureusement dans beaucoup de nos sociétés et la nôtre nationalement, mais pas la seule. Mmh. Et puis après, il y a un champ qui est, lui, un peu plus positif, je dirais. C'est que à force de travail et des pouvoirs publics et des associations au quotidien, la parole se libère, les gens osent plus dénoncer, osent plus venir signaler les actes dont ils sont malheureusement victimes. Et que les chiffres montent aussi de ce fait-là.
Oui, il y a une hausse mécanique du fait qu'on les dénonce aussi plus facilement. Vous avez tout à fait raison de le rappeler. Vous parliez de l'éducation tout à l'heure en mentionnant que c'était le premier vecteur et peut-être le premier endroit où il fallait travailler ces questions-là. La semaine de lutte, elle est donc coordonnée avec les établissements de la ville et de l'agglomération romorantinaise.
Alors toujours, nous avons en plus la chance pour nous depuis ce dernier mandat d'avoir au sein de notre équipe exécutive Madame Anne Degré, qui est directrice de l'école du quartier prioritaire de la ville et qui est aussi coordinatrice REP avec le collège. J'avoue que c'est facilitateur. Nous travaillons déjà très bien avec l'éducation nationale, mais là, elle est dans les murs tous les jours. Donc, ça permet de faciliter effectivement la mise en place d'actions.
Deux dernières questions. Quelles sont les structures sur le Romorantinais pour les personnes LGBTI qui ont des besoins, des questions, ce genre de choses?
Alors, il y a toujours le centre social Saint-Exupéry qui est quand même un lieu où les gens peuvent être entendus, où une équipe est là. Mais pour ce qui est d'une équipe formée, nous orientons pour le planning familial, vers le planning familial, toujours, oui.
Qu'on a reçu pour la partie blaisoise en première partie d'émission.
Ils sont des acteurs majeurs.
Bien sûr. Et dernière question pour finir sur un côté positif. La semaine donc sur le Romorantinais de lutte et d'action se termine ce jeudi. Il reste, je crois, une exposition qui est visible encore quelques jours ou quelques semaines.
Alors, il y a à la fois effectivement les expositions qui sont encore visibles jusqu'au 23 mai. Il y en a trois encore. Il y en a une au Centre communal d'action sociale. Il y en a une au centre social, comme je vous en parlais, municipal Saint-Exupéry, et qui parlera justement, elle, des familles plurielles, avec une exposition de photos intergénérationnelles qui montre tout type de composition familiale. Et puis, il y en a une au restaurant associatif La Majo Étiquette Tap.
Très bien.
Et ensuite, il y en aura une à partir de vendredi dans la commune de Villefranche-sur-Cher qui nous a rejoint dans leur bibliothèque.
Merci beaucoup Stéphanie Escamez, donc adjointe chargée de la lutte contre les inégalités pour la ville de Romorantin. On comprend donc qu'il y a eu beaucoup d'actions cette dernière semaine et que des expositions restent visibles sur plusieurs structures de la ville. Merci à vous.
Merci à vous, bonne journée.
C'est la fin de cette lorgnette, donc un peu spéciale, découpée en deux segments, à Blois et à Romorantin. Vous pouvez retrouver l'intégralité de cette émission sur le site de Studio F, à la page de podcast de la lorgnette, évidemment. On rappelle, la marche des fiertés à Blois, ce sera
le samedi 24 mai, à partir de 15h, le départ depuis les Jardins de l'Évêché.
Tout de suite, évidemment, comme tous les jeudis, c'est le journal de bord d'un élu local, Nicolas Orgelet et Gaël Bernard. À 18h, c'est la Roxette avec l'ami Christophe. On vous souhaite une bonne fin de journée sur Studio F. Salut!
À bientôt!
Journal de bord d'un élu local, c'est l'épisode 141. Il s'appelle Lutte locale en Centre-Val de Loire, avec notre invitée Catherine. Et c'est parti! Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nicolas n'est pas avec moi pour faire la présentation, mais il n'est pas très très loin. On va reprendre une discussion qu'on avait avec Catherine, coordinatrice des luttes locales de la région Centre. Et on va parler de ce qu'elle fait et des différentes luttes locales qui se trouvent dans notre belle région. Et bah écoutez, je vous laisse reprendre le fil de la discussion.
Mais toi Catherine, tu nous disais il y a d'autres projets dans le coin, dans la région, écocidaires. Est-ce que tu peux nous faire un petit tour d'horizon de ces projets contre lesquels vous êtes battu ou vous êtes en train de vous battre ou contre lesquels vous avez gagné?
Alors, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de projets, en fait. La difficulté de la coopération des luttes locales, en gros, ça a été on a émergé sur un sujet contre les plateformes logistiques parce que finalement, c'est l'actualité, c'est ce qui pousse le plus dans la région Centre. C'est soi-disant un impact économique grandissant. Ah, On attend de voir le résultat, on n'a toujours pas compris. Par contre, ça mange énormément de terre. Et donc, du coup, de là, se greffer d'autres luttes. Ce sont d'autres luttes, d'autres collectifs sont arrivés, nous ont contactés et nous ont dit, on a besoin d'un coup de main. Donc, style le Golfe des Pomereaux, style la plateforme logistique à la mode Beuvron, une plateforme logistique, un projet qui nécessitait aussi d'artificialiser, je ne sais plus combien d'hectares, mais en fait, on a réussi à bloquer le projet parce que le porteur de projet a vu la contestation et a vu que son projet n'était pas acceptable et l'a retiré de lui-même. On a Semblançay, c'était un parc photovoltaïque sur des parcelles de forêt. Voilà, c'est pas typiquement et spécialement mais c'est de l'artificialisation d'une manière générale. Et on lutte aujourd'hui sur d'autres sujets ou d'autres projets ensemble. Et là, on est encore en gros.
C'est le projet d'autoroute aussi.
L'autoroute A154 A120 qui est sorti en fait, pareil, on va dire d'une manière technique, on va dire, il est sorti du cadre du ZAN pour intégrer le cadre des projets d'intérêt national et européen. Donc là, pour le coup, c'est.
Donc tu comptes pas en gros ce que ça artificialise. Tu dis on va pas le compter dans les enveloppes de droit ou à construire locaux parce que c'est d'intérêt national.
Alors attendez, c'est sorti. Du coup, ça veut dire que ça va pouvoir se faire sans les contraintes de.
Ça va pouvoir se faire sans enlever des droits à construire du reste du territoire.
C'est-à-dire que nous autres, sur en local, ça nous donne plus de droits à construire. Mais en fait, au final, on a des droits à construire, mais en réalité, c'est quand même hyper, hyper destructeur. Mmh. C'est-à-dire que là, moi, ce week-end dernier, je suis allée à Chartres, j'ai rencontré l'agriculteur à côté de Chartres à qui on mange quasiment la totalité de des terres pour le projet. Il n'y a pas de compensation prévue, il n'y a pas de discussion prévue, il n'y a pas de dialogue prévu, il n'y a rien qui est prévu pour ce monsieur. Il va devoir se débrouiller parce qu'en fait, elles ne seront pas compensées. C'est-à-dire que là, on a 660 hectares pour ce projet-là qui ne seront pas compensés. 660 hectares de terres agricoles et 90 hectares de terres forestières.
Donc compenser, ça voudrait dire qu'on recrée ces terres agricoles ailleurs ou de la forêt,
voilà.
Pour pouvoir compenser.
Ouais. En revanche, ce qui est assez intéressant, c'est que c'est sorti donc dans la presse hier. Le conseil départemental du 28, de Loire-et-Loire, a déjà préempté et a déjà signé avec la SAFER des espaces pour les externalités de ce projet. Les externalités, c'est les zones d'activité économiques, les ZAE, les ZAC, les zones d'activité concertées, pour y mettre et installer. Soi-disant des industries, il n'y en a pas, on n'en voit pas beaucoup le nez, mais en fait, la plupart du temps, vu l'axe que dessine cette autoroute à 154, à 120, c'est l'axe Rouen, le Havre, Rouen, Dreux, Chartres, Orléans. C'est juste pour les plateformes logistiques et les camions.
Donc en fait, normalement, quand un projet comme ça, tu es censé compenser la perte économique de l'agriculteur en lui trouvant d'autres terres pour qu'il puisse continuer son activité agricole et continuer de vivre de son métier. Or là, on voit bien sur ce territoire-là, l'effort n'est pas fait avec la SAFER d'aller chercher des terres pour pouvoir relocaliser les agriculteurs qui les ont perdus, mais par contre, l'effort est fait d'aller acheter des terres pour pouvoir développer des économies dont on n'est pas certain qu'elles ont une rentabilité. Et qu'elles voudront véritablement s'implanter. Parce qu'en fait, il y a toujours cette course à l'attractivité économique, et donc c'est une compétition entre les territoires qui veulent tous leur zone d'activité pour créer de l'emploi.
Voilà. Et on a ça, on a donc un projet de lutte contre une ZAC à Châteauneuf-sur-Loire, dans le Loiret, à la sortie d'un axe routier qui est pas forcément non plus, qui est déjà saturé, donc en fait, ça va pas aménager les choses, sauf que c'est issu pareil, d'une lutte que nous avons perdue, qui concerne en fait la déviation de Jargeau et Saint-Denis-de-l'Hôtel, qui est en fait un contournement est de d'Orléans.
C'est un pont au-dessus de la Loire.
Et avec un pont au-dessus de la Loire, en fait.
Qui préexistait, qui était en capacité d'absorber les flux routiers déjà. où ils avaient prédit qu'il y aurait une augmentation des flux qui n'a jamais eu lieu. Pour autant, ils ont quand même fait la déviation sur des zones karstiques, sur des zones en fait avec des enjeux écologiques par rapport au fleuve Loire et à tout l'impact que ça aurait. Et en fait, c'est passé en force. Ils ont quand même fait le pont, même s'il n'y en avait pas réellement de besoin. Et donc maintenant, ils essayent de créer le besoin autour du pont qu'ils ont fait en développant des zones d'activité autour.
Voilà. Et nous, on est en train de faire du coup un diagnostic de toutes les zones d'activité qui ont été créées, qui sont complètes, qui ne sont pas complètes ou qui ont des projets d'extension. Il y a beaucoup d'espace, il y a encore beaucoup d'espace libre, mais on continue d'en créer et on continue donc d'artificialiser, etc., etc. Là, en l'occurrence, sur Châteauneuf-sur-Loire, ça va être 65 hectares de zones humides qui ne seront pas reconnues comme étant en zone humide par des mécanismes divers et variés. Voilà, ce serait trop long d'en parler. On a ça, on a les plateformes logistiques à mer, on a les plateformes logistiques à Romorantin, à Vierzon, on a voilà, plein d'autres sujets en fait qui émergent de partout. On a les carrières, la question des carrières, on est en train de faire aussi une sorte de diagnostic de toutes les carrières qu'on va autoriser en fait, parce que voilà le deuxième problème en fait, c'est qu'il va quand même falloir du granulat, il va falloir aménager les routes et etc. Et en fait il faut de la matière première, la matière première on la trouve quand même dans le sol.
Et en fait, comme tout le monde veut sa zone d'activité, ben, ce qui se passe, c'est que c'est des zones d'activité qui sont construites, mais qui parfois restent vides. Typiquement, les entrepôts logistiques, il n'est absolument pas rare qu'il y ait des entrepôts qui font des hectares de taille et qui, pendant des années et des années, restent vides parce qu'il n'y a pas de personne en face pour s'installer à l'intérieur. Et parfois, c'est de la rétention foncière, c'est-à-dire c'est un investisseur qui va acheter tant qu'il a des droits à construire. Se dire qu'un jour ou l'autre on n'aura plus le droit de construire et que ça vaudra de l'or son truc là, et donc en fait il va faire de la rétention foncière pour un truc dont on n'a pas besoin.
Alors, il y a la rétention foncière, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi la spéculation, c'est-à-dire qu'en fait admettons Amazon, mais d'autres hein, vont se dire bah, je vais avoir besoin d'un entrepôt logistique pour entreposer ou faire une pause avec mes camions, parce que les camions doivent s'arrêter à un moment donné, donc en fait on fait une pause camion, les gens doivent se reposer, etc., oui. etc. Donc en fait et à ce moment là en fait il faut à un endroit stratégique un espace qui leur appartienne sur lequel ils peuvent investir, on va dire 1 an, 2 ans, 3 ans. Les baux des entrepôts logistiques, les baux à louer durent entre 3 et 5 ans, et au bout de 3 ou 5 ans, plim, ils disparaissent et ils vont s'installer ailleurs. Et ça, on a pléthore. Enfin, je veux dire, c'est courant, c'est tout à fait renseigné. Il y a eu des enquêtes faites par les journalistes, il y a eu des enquêtes, il y a tout ce mécanisme, on va dire, pour nous, qu'on appelle en fait capitaliste. C'est-à-dire qu'en fait, on utilise ce dont on a besoin à un temps T, à un endroit précis, et puis 2 ans, 3 ans après, bah en fait, si on n'en a plus besoin, on le jette. En fait, on ne se préoccupe pas du tout de la vie du territoire, mais vraiment de ses propres profits à soi. Voilà.
Ouais, on est encore sur le long terme, quoi.
Voilà.
Je dirais, on en a beaucoup parlé sur le Golden Board, mais au final,
partout.
C'est à chaque fois à peu près la même chose.
C'est ça.
C'est l'importance d'avoir une vraie stratégie économique en disant ce qu'on disait sur le premier épisode, comment tu hiérarchises tes droits à construire, comment tu fais en fonction du nombre d'emplois par hectare qui sont créés, comment tu regardes les emplois qui vont être non délocalisables. Typiquement, voilà, l'industrie, c'est beaucoup plus intéressant d'artificialiser pour mettre un peu d'industrie qui crée des emplois, plus un emploi dans l'industrie, ça crée à peu près 10 emplois dans l'économie tertiaire, plutôt que de faire une zone de logistique où tu as peu d'emplois, tu as énormément d'impact en artificialisation et demain, elle sera peut-être plus là. Et pareil pour les golfs. Quoi.
Et on en avait parlé avec Abel Béton déjà dans un épisode avec Noé Petit.
Voilà. Voilà. Bah, c'est avec lui, en fait, notamment qu'on a lancé la coopération des luttes locales, parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'on était un peu seul. Et puis, alors donc, du coup, cette coopération des luttes locales, c'est un outil de lutte. Hein. C'est pas une entité particulière, c'est juste un outil qui nous permet de nous relier, de nous entraider, de se donner des pistes et surtout d'avoir une vision. En fait, notre souci premier, c'est quand on s'est rendu compte en fait que les gens n'avaient, enfin les gens qui se lançaient dans les luttes n'avaient pas forcément une vision globale en fait du mécanisme qui était en train de se dérouler sous leurs yeux. Et donc voilà, cette année la coopération des luttes locales s'est lancée dans une sorte d'enquête, un diagnostic régional, de manière à bien identifier en fait quelles pourraient être nos cibles, quelles pourraient être les personnes à interpeller, les bonnes personnes à interpeller sur la question de l'aménagement du territoire et sur la question de l'environnement. En fait,
c'est des enjeux de formation et de solidarité entre luttes. C'est très technique et en fait, il y a beaucoup de recours qui vont être retoqués pour vice de forme et où tu vas devoir payer une amende pour vice de forme. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup une attaque politique contre la capacité des citoyens à pouvoir faire des recours. Donc on va parler souvent de simplification, comment on fait en sorte qu'il y ait moins d'enquêtes, comment on fait en sorte que les projets soient plus facilement acceptés au nom de l'économie. Et en réalité, c'est plutôt au nom de la finance. Et puis d'autre part, comme il n'y a plus d'argent dans la justice, il y a moins d'argent dans la justice, il y a un embouteillage des dossiers. Donc, on va essayer de chasser des dossiers pour vice de forme, ça en fera moins à traiter. Et il y a de plus en plus une stratégie des grands porteurs de projets d'aller chercher des conseillers et des avocats pour réussir à faire tomber les recours pour des questions de vice de forme. Donc, il y a besoin de technicité, il y a besoin d'appui. Et en fait, la coordination des luttes locales centres, ils apportent ça. Comment tu fais pour faire un recours? Sur quel avocat t'appuyer? Sur quelle association? Comment tu t'y prends? Voilà. Pour éviter de te faire bouler avant même de pouvoir porter le projet.
Et puis d'avoir une vision. Avoir cette vision-là, peut-être parce qu'en fait, souvent, on s'est rendu compte que les luttes que l'on pouvait gagner, que l'on pouvait remporter, c'était celles que l'on avait quasi anticipées. C'est-à-dire quand on n'est pas à courir derrière un calendrier administratif, mais quand on peut le devancer, et qu'on peut le devancer parce qu'on sait à peu près, à force d'avoir bien analysé notre territoire. Et le territoire, il n'est pas aujourd'hui, en fait, les décisions, elles se font en local, elles se font à la fois au niveau du conseil départemental, mais aussi et essentiellement au niveau de la région, qui voilà. Et en fait, dès lors qu'on comprend ça, on peut comprendre, en fait, on peut dire, ben voilà, là, il y a des choses à faire, là, il y a des choses à faire en amont.
Exactement ce qui se passe sur le golf.
Voilà, c'est ça.
Catherine, je voudrais juste qu'on termine. Qu'est-ce qu'on peut faire en tant que citoyen, citoyenne dans ce collectif des luttes locales? Est-ce qu'il y a un endroit où on peut aller trouver des informations?
Alors, on a un site, il est tout simple, c'est luttelocalecentre.com. Enfin voilà, vous tapez sur votre barre de recherche lutte locale centre,
okay,
ça devrait marcher. On a des boucles WhatsApp, on se réunit aussi. On va certainement organiser en septembre 2025 un village des luttes. À l'issue en fait de cette fameuse grande enquête que l'on est en train de mener, où on va restituer un peu ce que l'on a récupéré et ce que l'on a vu, ce que l'on comprend en fait de l'aménagement de notre territoire. Et donc voilà, vous pouvez en tout cas déjà le site. On a aussi une page Facebook, j'allais oublier, voilà. Pour le moment, on n'a pas plus que ça. C'est déjà
pas mal. Voilà. C'est déjà beaucoup alimenté.
Si comme nous. On trouve que ce projet, il a aucun sens et que c'est complètement contre nos valeurs. Comment on peut nous aider?
La meilleure solution pour commencer, puisqu'on essaye de s'organiser tous ensemble, en fait, c'est déjà de nous contacter via notre adresse mail qui est luttelocalecentre@gmail.com. Donc lutte locale au pluriel, centre, puisque c'est la région centre, donc voilà, tout en minuscule. Vous pouvez suivre l'actualité sur le site Lutte Locale Centre également.
Et surtout, en janvier-février, il va y avoir l'enquête publique, on va faire une grosse manifestation, ouais. Il faut être là.
Et voilà. Et en fait, on va communiquer via les différents réseaux, donc via nos pages Facebook, via les groupes WhatsApp, via le site internet. Surtout, soyez très très attentifs, on vous donnera rendez-vous.
Ok, il y a une pétition.
Ah oui, il y a une pétition.
Il y a une pétition aussi. Ouais, moi, j'en ai entendu parler d'une pétition.
On a eu 38 000 signatures.
Ouais, 38 000 signatures en très très peu de temps.
Et est-ce qu'on peut continuer à signer?
Bien évidemment. Bien sûr. Et vous pouvez surtout la partager et en parler à vos copains, copines, voisins, voisines, etc. En fait, c'est vraiment une mobilisation populaire, citoyenne qui compte, même si effectivement, à un moment donné, on sait très bien qu'on fera aussi, on sollicitera aussi, on demandera aux élus et aux partis politiques de se positionner.
De se mouiller.
Parce qu'en fait, ça, c'est, oui, même si c'est déjà plus ou moins fait, mais enfin, je veux dire, en fait, il va falloir se positionner officiellement. Et ça, c'est important. Voilà, on a besoin de tout ça, on a besoin...
Si vous connaissez des journalistes, on a besoin d'articles de presse, ou si vous êtes journaliste et que ça vous intéresse, contactez-nous. Je pense vraiment que, voilà, ça... Il faut qu'on fasse de la transparence sur ce projet. Nous, on a mis beaucoup de temps pour pouvoir aller chercher les infos, parce que c'est pas facile à trouver. Maintenant, faut le faire savoir. Et après, les gens sont pour, sont contre, mais en tout cas, ce travail d'information publique, voilà, si vous êtes un organisme de presse quotidienne régionale ou... national, voilà, c'est, vous pouvez nous aider en nous aidant à avoir un ou deux articles qui sortent pour en parler.
Voilà, visibiliser les choses plus, alors qu'en fait le projet avance caché.
Ok, merci beaucoup. Salut.
Salut.
À bientôt.
Thank you.